foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Clémence Pierangelo. Vous êtes ingénieur, docteur en sciences de l'environnement et vous avez travaillé pendant 20 ans dans le domaine des sciences de l'atmosphère. Alors, je suis vraiment très très content, mais en même temps, je dois dire que je suis un sociologue, un petit peu agnostique dans mes hypothèses, et je me trouve devant une femme de conviction. Ma foi, votre foi, moi j'y crois pas trop, et en fait, vous allez nous parler de la fin du monde, de l'apocalypse, et moi j'ai du mal avec ma fin du mois. Et puis vous allez remonter peut-être même jusqu'au Big Bang, dans les poussières d'étoiles, dans l'Odyssée cosmique. Non, vous êtes scientifique. Alors.
Bonjour. Oui, alors si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour démystifier un petit peu cette vision du scientifique. Le changement climatique, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre et doit comprendre. Il y a d'ailleurs des ouvrages de vulgarisation qui sont très bien sur le sujet, parce que cette compréhension des mécanismes scientifiques, alors il ne faut pas que le mot scientifique fasse peur, c'est ça qui permet ensuite de pouvoir agir en tant que citoyen et de réaliser l'importance de certains de nos... des directions qu'on prend à la fois dans nos comportements individuels ou au niveau de la société, à un niveau plus collectif.
Mais j'allais dire, c'est une question du bac, et puis même déjà en sixième, alors on explique que les mathématiques, c'est des sciences dures, il y a les connaissances, comme vous venez de dire, mais le savoir, c'est pas le domaine des sentiments, c'est ça un petit peu. Alors on en est où là, dans les sciences molles, les sciences dures et les convictions, et puis le prosélytisme?
Alors, il y a effectivement, il y a d'abord le cœur est effectivement constitué par les sciences dures. Le climat, ça va être des équations physiques, des mathématiques, comme vous le dites, mais c'est surtout une affaire humaine. C'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, quand il y a des animations qui sont proposées par des associations autour de la fresque du climat. Si effectivement les mécanismes en jeu, les gaz à effet de serre, le forçage radiatif, tout ça c'est très scientifique, à l'origine c'est l'homme, c'est-à-dire que s'il y a ce changement...
Non, à l'origine c'est Dieu, pour ceux qui pensent qu'il y a eu au-delà du Big Bang, parce qu'avant le Big Bang c'était quoi? On ne sait pas, vous êtes dans la pleine métaphysique. Je devrais dire, s'il vous plaît Clémence, pour nos auditeurs qui vont bientôt raccrocher l'antenne, que vous étiez venue en fait pour former... des prêtres, les diacres, les pasteurs et des personnes qui sont responsables de culte au grand séminaire autour de Mgr Guy de Kerimel, avec Alain. Alain est venu déjà ici il n'y a pas longtemps, pour parler de nos vies bas carbone. Oui, une vie, j'allais dire sans CO2, on serait mort si là, dans l'atmosphère il n'y avait pas de CO2, n'est-ce pas?
Une vie compatible avec la vie, je crois que c'était la formule.
Et qui nous rend heureux.
Exactement.
Alors là, c'est encore un autre domaine que la foi et les mathématiques.
Exactement. En fait, pourquoi est-ce que ce changement climatique est un problème? Parce qu'il a potentiellement des conséquences sur l'habitabilité de la Terre, avec tous les risques qu'on connaît. 30 millions de personnes par an, quand même, qui sont déplacées à cause de catastrophes naturelles, dont la... 70% ont été plus probables ou plus graves à cause du changement climatique.
Et les énergies fossiles?
Alors, les énergies fossiles, on est un peu de l'autre côté, en fait. C'est-à-dire que ça va être au niveau des causes du changement climatique, où là, effectivement, ça vient d'où cette accumulation de gaz à effet de serre? Ça vient du fait qu'on est dépendant des énergies fossiles. On brûle du pétrole pour faire marcher nos voitures, on brûle du pétrole pour produire notre alimentation, pour chaque achat qu'on fait derrière, effectivement, il y a de l'énergie, donc il y a du pétrole. Donc ça, c'est un côté de la chaîne. Au milieu, il y a les mécanismes physiques du changement climatique. Et puis en sortie, il y a les conséquences sur les humains. Un monde plus chaud, un monde par endroits plus secs, un monde donc, dans lequel les cultures sont plus compliquées, donc l'alimentation peut devenir un problème, que ce soit, comme vous l'avez dit, parce que ça devient plus cher, les problématiques de fin du mois, ou dans d'autres régions, aller jusqu'à des famines, des maladies qui vont se propager aussi autrement.
Mais vous êtes trop climato-sceptique, parce que, peut-être qu'il y a une baisse la baisse des rendements agricoles. Bon, mais on sait qu'on peut, avec des engrais, doubler. Avant, il y avait combien de grains par épi blé ? Je crois que c'est même un rabbin qui avait dit 100 au centuple. Et puis, les catastrophes naturelles. Mais de toute façon, il y en a toujours. Les dinosaures, de toute façon, on n'y peut rien, nous.
Alors, les catastrophes naturelles, il y en a toujours. Maintenant, je redis ce chiffre qui est quand même marquant. Sur les 10 dernières années, il y a plus des 2/3 des catastrophes naturelles qui auraient été beaucoup moins probables ou beaucoup moins graves sans le changement climatique. Par rapport à l'utilisation des engrais, alors je ne suis pas spécialiste d'agriculture, mais quand même les rapports de la FAO indiquent que si on veut nourrir la planète, il faut au contraire aller dans le sens d'une agriculture plus respectueuse de l'écologie. C'était d'ailleurs le sens des propos de la personne que vous avez eue sur et de Adeline de CCFD que vous avez eue dans votre émission.
Oui, mais tout le monde n'est pas toujours d'accord avec le comité catholique contre la faim, Terre solidaire. On peut pas être solidaire de l'ensemble du monde, de toutes les catastrophes qui existent. Peut-être vous dites qu'il faut continuer à faire société. Mais là, ce n'est plus le scientifique, le chercheur qui parle, c'est vous, Clémence.
Effectivement. Et la question est où s'arrête la responsabilité du scientifique dans la société. On voit que, ce qui se passe, c'est qu'il y a une inquiétude. Le scientifique, il est aussi citoyen, il est aussi individu, il ne peut pas se scinder en deux. Et donc, il y a tout ce mouvement de lanceurs d'alerte, justement. Et faire société, c'est justement par rapport à toutes ces conséquences au niveau de l'alimentation, des migrations, des catastrophes naturelles.
Vous dites lanceurs d'alerte.
Il faut réussir à rester en paix.
Lanceurs d'alerte. Alors, je fais déjà une petite annonce parce que dans 8 ou 15 jours, c'est le pasteur Mino Ramana qui viendra nous parler de Jonas, une table ronde qui aura lieu en juin, début juin. Et alors, c'est intitulé à un moment donné Jonas, le lanceur d'alerte déprimé. Parce qu'en fait, on ne peut rien faire. Non, d'abord Jonas, il semblerait qu'il a voulu aller convertir Ninive, puis quand il est arrivé, au bout de 2 jours, Ninive était déjà convertie sans lui, il était fâché contre Yahvé. Mais bon, ça c'est un autre débat, la métaphysique ou les livres dits révélés. Vous avez des livres scientifiques, le rapport du GIEC, et vous avez des tests, non ? Vous avez des preuves. D'ailleurs, vous avez apporté une image qui est formidable. Bon, c'est en anglais, je n'ai pas tout compris, mais il s'agit de...
En anglais, les warming stripes, donc en français, c'est une sorte de... Les barres du réchauffement, c'est une sorte de code-barre colorée qui va du... Visuellement, ça va des tons plutôt bleus à gauche vers des tons plutôt rouges à droite.
Fake news, c'est de la faute de nos ennemis qui veulent nous faire baisser notre taux de croissance et faire augmenter le chômage.
Pas du tout. Et pour moi, ce qui est intéressant dans cette image, c'est que c'est une représentation assez facile à comprendre. Si on dit le bleu, c'est froid, le rouge, c'est chaud, le réchauffement climatique, il est visuel parce que chaque barre correspond à une année entre 1850 et 2015. Et on voit clairement que la Terre se réchauffe, même si on n'a pas l'habitude de voir des courbes scientifiques. Ça se comprend très bien.
Alors on voit, je suis quand même un peu sceptique parce que d'abord, il faut avoir toute une culture. Et puis, le « on », c'est qui ? Il y a toujours deux scientifiques qui diront que les trois premiers se trompent un peu ou ont des hypothèses plus ou moins fragiles.
Alors, il y a quand même des consensus scientifiques. Par exemple, le fait que la Terre soit ronde, on peut continuer à croire que la Terre est plate, mais on aura du mal à avoir des arguments scientifiques sur le sujet.
Aplati quand même aux deux pôles.
Un peu aplati aux pôles, tout à fait. Et sur le changement climatique et son origine humaine, c'est la même chose. Peut décider de ne pas y croire, il n'empêche que scientifiquement, il y a un consensus là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il y a plus de gens qui sont sceptiques par rapport au changement climatique que par rapport à une Terre plate ? Parce que finalement, le fait de dire que la Terre est plate, personne n'a intérêt à y croire. Alors que le fait de dire, il n'y a peut-être pas de changement climatique, ça nous arrange bien quand même. Ça évite de remettre en cause un modèle de croissance économique, de productivité, un modèle de vie avec tout le confort qu'on peut avoir. Et donc, à partir du moment où on a cet intérêt-là, il y a des climato-sceptiques qui sont dans un déni pour des raisons d'acceptation psychologique de la situation.
D'intérêt. Alors, vous avez dit « on », après vous avez dit « nous ». On est en pleine guerre des représentations. Mais en tout cas, nous allons vraiment avoir besoin d'une toute petite pause. Alors, vous avez choisi, encore un mot qui ne va peut-être pas nous rendre copains, mais « Les voleurs d'eau », hein, Henri Salvador. C'est pourquoi oui. ce chant cover.
Alors, cette chanson... parle de la question des ressources en eau. Voilà, si on fait un barrage pour produire de l'électricité, bah donc il y a moins de ressources en eau
pour
les autres. Et c'est ça le changement climatique. C'est pas simplement que la Terre se réchauffe, c'est qu'il va falloir prendre des décisions.
Là, vous êtes reparti dans des longs discours. Je pense qu'on va demander à Christophe
écoutons
de
la
nous
chanson.
Faire écouter. Alors, en plus, vous avez repris le rap, n'est-ce pas, de Imani.
Oui,
ben merci.
Une version d'Imani.
Il détourne la rivière, là-haut, là-haut. Il se moque de nos misères, là-haut, là-haut. Si la soif nous affaiblit, et si nos sources sont taries, tout l'eau, trop d'eau, vont périr l'un après l'autre. Là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord, il nous faut parler assez, gringo. Nos terres sont les plus fertiles. C'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos barques, lorsque nous pêchions dans le lac. Heureux, heureux, ils veulent construire un barrage. Là-haut, là-haut, c'est la vallée qu'ils saccagent. Là-haut, là-haut, ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages. Là-haut, comme des corbeaux, nous devons les empêcher. Là-haut, là-haut, de détruire nos foyers. Si beau, si beau, tous les hommes vont s'armer, toutes les femmes vont les aider.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Madame Clémence Pierangelo, merci d'être venue, Clémence, pour parler des vies bas carbone. Vous êtes docteur en sciences de l'environnement, vous avez travaillé dans les sciences de l'atmosphère. Vous nous avez apporté une fresque en bleu froid, rouge, chaud, pour nous évoquer... cette question des migrations climatiques, de la baisse des rendements agricoles, des catastrophes naturelles. Mais vous venez aussi avec un grand optimisme.
Oui, tout à fait. Le constat est ce qu'il est. Néanmoins, il y a des leviers d'action et face à un risque de sombrer dans l'éco-anxiété, le remède au désespoir... c'est l'action, l'action aussi bien individuelle que collective. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire précisément par rapport à ces questions de changement climatique ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas agir sur la physique. Bon, voilà, ça se réchauffe, ça fait fondre la glace, ça fait dilater l'eau. Ça, on n'y peut rien. Par contre, les causes qui sont liées à l'homme, on peut agir dessus, c'est l'atténuation. Et les conséquences du changement climatique, on peut aussi agir dessus. Préparer nos sociétés à ce monde-là, et c'est l'adaptation. Et donc, les principaux leviers, ils sont connus. C'est ceux qu'on avait abordés lors de l'atelier que vous avez mentionné sur nos vies bas carbone. Au niveau de l'atténuation, c'est réussir à passer des émissions moyennes pour un Français de 10 tonnes à 2 tonnes. Alors, c'est très disparate en fonction des situations individuelles. Mais en gros, il faut limiter au niveau des déplacements, évidemment, l'usage de l'avion, qui par ailleurs n'est pas forcément très démocratique. À l'échelle mondiale, c'est une petite fraction de la population qui prend l'avion.
Mais vous n'allez pas vous faire que des amis. Alors bon, transport, pourquoi pas, voiture,
voilà,
électrique.
Voilà, limiter la voiture. Après, au niveau de l'alimentation, il y a l'impact très fort de la viande, en particulier les ruminants. Ensuite, le logement, isoler son logement. Et puis globalement, consommer moins. Alors oui, comme vous dites, on ne se fait pas forcément des amis avec un tel programme.
Mais c'est possible parce que je crois qu'il y avait dernièrement au Conseil régional une conférence, plutôt une table ronde avec les aumôniers, toutes confessions qui s'occupent de détenus, de prévenus dans les maisons d'arrêt. Eh bien, peu importe le thème, mais je trouve qu'au Conseil régional, il y avait des bouteilles en verre pour chaque conférencier et pas des bouteilles en plastique. Et je crois que même le pape François avait évoqué ça dans Laudato Si, mais nos auditeurs connaissent bien cela. On va plutôt aller vers d'autres questions concernant la responsabilité dans l'école. La responsabilité, chacun dans son quartier peut-être, avant de dire c'est les autres.
Exactement. Alors en fait, le risque, c'est de tomber dans le triangle de l'inaction. En gros, où l'individu d'un côté, le gouvernement de l'autre, et puis la troisième côté du triangle, c'est les industries, se renvoient la balle en disant le gouvernement dit non, je fais rien, la population veut pas. Les gens ont dit ben non, je fais rien, c'est aux industriels.
C'est pas nous, c'est l'Europe, n'est-ce pas ? On va voter ou on ne vote pas.
Et donc, pourquoi l'action individuelle est importante ? Elle est importante en elle-même, mais surtout comme levier pour l'action collective, pour quelque part envoyer un signal justement vers les États, les municipalités, les entreprises, que le monde change et que les individus sont prêts à faire ce changement.
Faire société.
Exactement.
Chacun responsable à son niveau.
Et puis, j'ai un exemple assez simple, c'est l'usage du vélo qu'on pratique, vous et moi, donc voilà, qui nous rapproche. Sans vouloir révéler.
Mais vous avez apporté un livre qui permettra peut-être, pour ceux qui n'auraient pas le temps de nous suivre jusqu'au bout,
oui,
eh bien, d'évoquer à la fois ce monde instable, mais les possibilités de ces climato-optimistes.
Alors, les éco-optimistes, c'est le remède à l'éco-anxiété. C'est un ouvrage de Dorothée Moisan, publié par Le Seuil dans la collection Reporter.
Moisan.
Exactement, et qui montre que voilà, justement, se lancer dans l'action, c'est vraiment le bon remède pour l'éco-anxiété. Et pour en revenir au vélo, le fait de faire du vélo, ça permet de limiter les émissions sur le moment, mais surtout de montrer que c'est possible, d'encourager par exemple votre employeur à mettre des abris vélo puisque vous venez à vélo, d'encourager les municipalités à développer des pistes cyclables, et du coup l'effort devient moindre et on enclenche une boucle vertueuse. Et c'est la satisfaction qu'on peut tirer de ça, le fait d'agir individuellement, mais aussi de sentir que notre action, elle va avoir des répercussions collectives, qui permet justement qui caractérise peut-être ces éco-optimistes que décrit Dorothée Moisan dans son livre.
Oui, mais il y a des gens qui ont peur de faire du vélo et il y a des chiens qui, s'ils ne sont pas en laisse, ils vont courir après les vélos parce que dans leur ADN, les bordeurs... Il court après et on peut
absolument.
Rien faire.
Absolument. Donc le vélo était un exemple. Après, à chacun de trouver son... Voilà, son
mais il y a l'aspect financier
agir.
Aussi dont vous parlez. Les questions d'argent et de co-responsabilité au niveau de ceux qui mettent leur épargne peut-être pas n'importe où.
Oui, alors c'est vrai qu'en fonction de là où on met son épargne, dans quelle banque, elles sont plus ou moins vertueuse et sans le savoir, malheureusement, on peut être amené à soutenir les industries fossiles. Via sa banque. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'en préalable à l'action, je pense qu'il est important de bien se renseigner, de prendre le temps quelque part de comprendre un petit peu tous ces mécanismes pour justement avoir des actions qui soient efficaces.
Oui, mais si on parle des médias, alors est-ce que je vais lire le Canard Enchaîné, Paris Match ou bien d'autres médias? Je n'ai plus confiance en personne ou en rien. Ou bien alors, vous aviez apporté un article de La Croix dernièrement et où on aborde ces questions que le gouvernement essaye, mais chaque fois il y a entre les députés, les sénateurs, des grands débats. Et peut-être c'est important parce que nous sommes en démocratie.
Mais exactement, il n'y a pas de... L'enjeu, quand je dis qu'il va falloir continuer à faire société malgré le changement climatique, ça veut dire réussir à avoir des débats démocratiques et que ce ne soit pas celui qui parle le plus fort ou qui a le plus de pouvoir financier qui l'emporte. L'enjeu, il est vraiment là. Et voilà. Et pour en revenir à l'action, c'est aussi un bon remède à l'éco-anxiété parce que ça permet de se rapprocher de gens qui ont les mêmes préoccupations. Il y a énormément d'associations qui œuvrent par rapport aux questions environnementales. Et voilà, ça contribue aussi à redonner du courage face au chantier.
Alors, vous savez qu'à tout le monde, je pose la question de la laïcité. Dans notre société où eh bien, chacun peut avoir des convictions sans vouloir faire de prosélytisme. On peut changer d'opinion, donc vous pensez qu'il y a des personnes qui, en vous écoutant, vont pouvoir peut-être changer de comportement.
Ce serait déjà une belle réussite. Je pense que le changement ne vient pas d'un élément, mais plutôt d'un ensemble d'éléments. Donc si cette intervention peut y contribuer, parce qu'elle aura peut-être donné envie à certains de se renseigner plus sur le changement climatique, de participer à une fresque du climat, ou pour les éventuels auditeurs climato-sceptiques, il y a ce deuxième livre là de Stéphane Foucard, L'avenir du climat, enquête sur les climato-sceptiques, publié chez Folio, qui décrit...
Foucard et FOU.
C-A-R-T. Et qui décrit justement un petit peu toute la manipulation qu'il y a pu avoir autour de cette question climatique.
Décrit avec beaucoup de précision, pas un petit peu, car nous sommes là devant une urgence à agir.
Tout à fait. Et vous avez mentionné tout à l'heure le rôle des médias, qui malheureusement n'a pas toujours été très positif par rapport à cette question du climat, où les médias, sans que vous le preniez personnellement, mais vont tendance à vouloir mettre du débat là où scientifiquement il n'y en a plus. Et donc on peut être donné une parole trop importante à des scientifiques qui se sont prononcés alors qu'ils n'étaient pas spécialistes de la question contre les évidences scientifiques apportées par des groupes comme le GIEC.
Le groupe du GIEC. Mais alors, nous sommes aussi devant une sorte de divergence entre ceux qui pensent que y a le ciel est responsable, si la pluie tombe, c'est sur les bons comme sur les méchants, ou le créateur qui lance une nouvelle alliance qui est un arc-en-ciel. Vous voyez, il y a toute une mythologie.
Même si la pluie tombe et qu'elle vient du créateur, ça ne vous empêche pas d'aller acheter un parapluie ou des bottes.
Ah ben, je vous remercie pour cette idée. On pourrait peut-être citer aussi un autre poème qui est le psaume 99. Le Seigneur est bon, il a fait la terre, mais alors certains se disent, mais s'il existe, pourquoi tant de guerres, pourquoi tant de tremblements de terre? Et nous sommes devant peut-être un mystère qui fait qu'on va être peut-être un peu plus humble et qu'on va accepter parfois d'entendre un peu les arguments de l'autre.
Un mystère que je ne saurais donc pas expliquer et donc une question que je vous renvoie.
Vous nous avez aussi renvoyé un beau chant de méditation. Il s'agit d'un extrait musical de Stella Splendens.
Stella Splendens, c'est un extrait du livre Vermeil de Montserrat, un manuscrit du 14e qui a été découvert dans l'abbaye de Montserrat. Et je l'ai choisi parce que dans nos vies bas carbone, il y a l'idée qu'on continue à avoir des activités qu'on aime en tant qu'humain. Moi, j'aime chanter. Et ce manuscrit, justement, il a été écrit donc au XIVe siècle, parce que donc c'est écrit dans l'introduction de l'ouvrage, les pèlerins, l'abbaye de Montserrat était un lieu de pèlerinage, souhaitaient pouvoir chanter et danser lors des veillées et puis même sur le parvis de l'église. Et donc, en quelque sorte, on leur a concocté une playlist. Donc cette chanson très ancienne en fait partie. Et
Stella, c'est l'étoile.
Exactement.
Nous sommes poussière d'étoiles, comme le dit
et donc, cette œuvre, elle parle aussi du rassemblement des hommes qui vont tous sur une colline pour voir cette nouvelle étoile qui est apparue. Et il y a de nombreux couplets qui recensent un petit peu toute la variété des humains dans cette société-là. On parle des barons et des artisans, des riches, des femmes jeunes et des femmes âgées, etc. Et c'est un petit peu ça, c'est cette idée de faire société et puis de se rassembler autour d'activités comme le chant. Je trouve ça une conclusion positive.
Et peut-être que Stella Splendens, la splendeur des étoiles, ça parlera à certains qui aiment chanter Marie, qui aussi peut-être est dans le ciel la reine des étoiles. Merci beaucoup, Clémence, de nous avoir apporté vos convictions, votre calme, je trouve, parce que vous ne vous laissez pas déstabiliser et vous nous apportez un espoir qui est celui d'une vie meilleure, une vie bas carbone.
Exactement, merci beaucoup. Et puis, je vous remercie.
Tous à l'ouvrage.
Exactement,
merci à
voilà.
Christophe. Merci Christophe pour l'enregistrement.
Exaudi.